BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel.
Bonsoir à tous en ce mercredi 27 mai, très heureux de vous retrouver. Bienvenue sur le plateau de BFM Business et bienvenue dans Tech & Co, la quotidienne, avec quelques minutes de retard. Mais l'essentiel, c'est que nous soyons là. C'est parti donc pour décrypter l'actu tech comme chaque soir, vous le savez, avec au sommaire ce soir dans Tech & Co, la quotidienne. Eh bien, on va s'intéresser à ces chiffres qui donnent le tournis concernant les processeurs et une annonce de Nvidia qui est proprement hallucinante. On va évoquer des centaines de milliards dans un instant. Autre sujet passionnant, c'est la mission lunaire. Ça l'est, la NASA commence à préparer son calendrier et vous verrez que Blue Origin, la société de Jeff Bezos, est dans le projet. Et puis on parlera tout à l'heure d'Honor. Honor, le constructeur de smartphones chinois qui a réussi à pénétrer l'écosystème Apple et avec des passerelles technologiques qui permettent aujourd'hui aux produits Honor de discuter avec les produits Apple. C'est une petite révolution dans le monde du smartphone. On en parlera tout à l'heure avec un porte-parole de chez Honor. Voilà le sommaire. Un grand merci d'être là et bienvenue. C'est parti pour Tech & Co, la quotidienne.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Tech & Co, la quotidienne, avec ce soir sur le plateau, Marion Moreau. Bonsoir Marion.
Bonsoir François et bonsoir à tous.
Marion qui est journaliste et fondatrice d'Ornorm Media. À tes côtés, c'est Salim Nassur. Bonsoir. Salut Salim. Comment ça va?
Salut Salim.
Oui, salut.
Ouais, il y a des syllabes qui
sont... C'était pas dans le bon ordre.
Salut, salut. Oui, salut. Mais c'est pas bon, ça marche pas.
Ça fonctionne, parce que c'est toi.
En tout cas, tout est allumé et tout va bien. Salim, qui est fondateur de Mars avec 2A et auparavant, était à un poste très important au sein de Google. Et tu as une vraie culture tech, c'est pour ça qu'on est très heureux de t'avoir régulièrement dans Tech & Co. Et bien sûr, Frédéric Simotel.
Bonsoir.
Bonsoir Fred.
Bonsoir à tous.
Tout va bien?
Tout va bien. Écoute, on va aller en Asie, on va revenir aux États-Unis, on va passer par la France.
Exactement. Tu t'es remis de la défaite de notre Français face à Joko, là, Joko, à l'instant.
Ouais,
oh là
ouais.
Là, c'était terrible. Pendant la pub, là, je voyais mon Fred un petit peu stressé.
Non, on va crier.
Voilà.
Crier pour lui.
Écoute, voilà. Concentrons-nous. L'actu tech avec cette news pour débuter concernant Jensen Huang, le patron charismatique de Nvidia, qui a annoncé aujourd'hui, eh bien, investir énormément d'argent à Taïwan. 10 à 15 fois plus qu'auparavant. Vous vous rendez compte? Là, on est sur des chiffres qui donnent le tournis. Jensen Huang a annoncé investir 150 milliards de dollars par an. À Taïwan. Pourquoi? Bah parce que, tout simplement, Taïwan, c'est the place to be au niveau des processeurs. Hein. On a TSMC qui est là. D'ailleurs, c'est intéressant parce que cette annonce a été faite par Jensen Huang à l'occasion du projet d'ouverture de cet immense immeuble qui va, pas fusionner, mais en tous les cas rapprocher à la fois TSMC et Nvidia. Mmh. C'est assez intéressant. Et donc, c'est les chiffres qui donnent le tournis, Fred.
Oui, bah c'est le cœur industriel mondial de l'IA. Alors il va y avoir 4000 recrutements. Et puis surtout, ce qu'il faut voir, c'est que il va vraiment faire de la R&D. Aujourd'hui, de la R&D, elle est plutôt aux États-Unis. Donc il veut pas en faire juste se rapprocher un peu de TSMC pour accélérer un peu la chaîne logistique. Il y a vraiment une volonté de faire de Taïwan un cœur industriel de l'IA et pas seulement de faiseur, mais aussi de penseur, de concepteur. Donc c'est assez important. Effectivement, il va avoir son siège. Alors c'est 4000 personnes, à terme c'est plus de 10 000 emplois, tu l'as dit, l'investissement c'est 150 milliards.
Donc c'est à Taipei, hein, bien sûr.
Oui, 150 milliards, mais par an.
Ouais.
Donc c'est quand même incroyable. Et alors ce qui est aussi étonnant, surprenant, c'est que cette annonce, elle survient 10 jours après la visite de Jensen Huang dans toute la délégation avec Donald Trump. En Chine. Ouais. Donc il y a aussi une portée géopolitique en disant voilà, quand on est alors il est né à Taïwan, hein, mais taïwano...
En tout cas, il a choisi son camp, hein, ça c'est clair.
Il a choisi son camp, on sent que là, il pose quand même un cœur industriel de l'IA, c'est pour dire finalement, voilà, je suis en train de créer un dôme là, à Taïwan, donc les Chinois qui attendent 2027 avec impatience pour se dire,
on essaie de reprendre la main sur Taïwan.
Ça va être un peu plus compliqué.
Marion.
Oui, c'est vrai que tu as bien résumé les enjeux d'NVIDIA à Taïwan, mais c'est vrai que ça rend quand même compliqué, pour nuancer un petit peu l'info qui va découler sur bien d'autres investissements, on l'imagine, c'est que ça rend quand même Taïwan assez dépendant maintenant, parce qu'il y a beaucoup d'accords, contrairement à ce qu'on pense, entre la Chine et Taïwan. Notamment, si on regarde les coopérations scientifiques, elles sont très importantes et elles sont toujours importantes. Il n'y a pas eu de baisse, malgré le contexte de la Chine qui menace en tout cas qui préempte Taïwan comme une île qui lui appartient dans l'histoire. On voit que la baisse des coopérations scientifiques interpays ne baisse pas. En tout cas, ça ne se vérifie pas. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour Taïwan à terme, parce que là c'est vraiment une extension d'NVIDIA hors sol, en dehors des États-Unis, et ça dicte quand même pas mal les choses pour l'industrie qui est en train de se construire, parce que on n'est pas tout à fait au bout quand même d'une industrie parfaite qui tourne bien, avec une chaîne de valeur qui est quand même très mondialisée encore. Et c'est vrai que l'épicentre doit être Taïwan, et le restera pour l'instant. Oui. Mais la couleur américaine va quand même peut-être un peu compliquer les relations.
Et puis ces relations intimes, j'allais dire, entre NVIDIA et TSMC, c'est tout bénef pour Jensen Yang, parce qu'il a intérêt quand même de se mettre TSMC dans la poche. TSMC fournit...
Bien sûr.
Tout l'écosystème tech aujourd'hui. Donc là, le fait de créer une espèce de bâtiment commun, d'affirmer en fait ces dépenses monstrueuses à Taipei avec TSMC, c'est quand même assez fort. Qu'est-ce que tu en penses, Salim ?
Juste un mot. TSMC, c'est pour les GPU. Mais derrière, il y a tout le... Pour les serveurs NVIDIA, il y a Foxconn, il y a Quanta.
Il y a Foxconn aussi, oui, t'as raison.
Enfin, il y a pas mal d'entreprises aussi derrière pour la partie serveur.
Salim ?
Ça donne le tournis.
150 milliards par an, c'est 10 fois plus, entre 10 et 15 fois plus que les années précédentes.
En fait, il y a trois trucs, moi, qui m'interpellent. Le premier, ben, effectivement, ce sont les montants. Donc, je me souviens, à la grande époque du cloud, où on se disait, on va investir 30 milliards sur 3 ans, c'était fou. Là, on lui dit, bon, 150 milliards en un an. Donc là, déjà, c'est pas la même échelle de valeur. La deuxième chose, moi, qui m'interpelle, c'est que, pour ceux qui n'avaient pas compris, on se rend vraiment compte qu'aujourd'hui, l'IA, en fait, c'est plus de l'infra que finalement les modèles, en fait. Tu vois, on parle d'énergie, on parle de puces, on va parler de mémoire. Donc aujourd'hui, on se rend bien compte que sans toute cette infrastructure, il n'y a pas d'IA. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Et du coup, on avait quelques modèles avant qui se battaient, les ChatGPT, Copilot, Gemini, etc. Et là, c'est encore pire parce qu'en fait, aujourd'hui, une fois que tu as un TSMC, que tu as un NVIDIA, il n'y a pas grand monde en face. Et avant d'aller récupérer et se mettre en compétition face à ces gens-là, c'est presque impossible maintenant. Donc, ça réduit encore plus la valeur sur... on parle toujours de ceux qui ont les pelles, sur ceux qui ont les pelles, plutôt que ceux qui vont chercher l'or. Et enfin, le dernier point, c'est... et là, j'avoue que je ne suis pas stratège géopolitique. Je trouve que le move est intéressant et en même temps étonnant. Parce qu'à un moment, il y avait TSMC qui avait mis une entreprise aux États-Unis sous l'ordre de Trump, pour essayer de délocaliser des choses de Taïwan.
Oui, et pour aussi adoucir un petit peu la posture de Donald Trump.
Sur les tarifs, mais pas que, parce qu'à un moment, on sait très bien que Taïwan, c'est une zone à risque.
Oui.
Donc si demain...
regarde, zone à risque. NVIDIA, zone à risque, mais il investit 150 milliards par an.
C'est pour ça que me dépasse, c'est que je me dis, tu mets 150 milliards dans une zone qui potentiellement peut repasser demain à la Chine.
C'est vrai.
C'est là où je suis un peu perdu.
Au moment où Trump dit qu'il faut tout investir aux États-Unis.
Exactement.
C'est ça qu'il faut. Et je pense que dans ce voyage-là, il a dû se passer quelque chose.
Petit bras de fer.
Mais il y a eu quelque chose, parce que pour revenir là et mettre 150. Enfin, Trump, quand il entend ça, il entend le gars qu'il a invité. Enfin, il l'a invité au dernier moment. On se rappelle un peu, c'était un peu épique la façon dont Jensen Wang s'est dit j'ai été un peu oublié. Et puis hop,
c'est étonnant parce qu'il n'est pas resté très longtemps. En fait.
Non.
Il a fait ce qu'il devait faire de manière protocolaire et il est vite parti aller manger des nouilles dans les rues. C'était assez étonnant. Il y avait plein de gens qui
lui,
suivaient.
Et puis lui, ce qu'il voudrait, c'est que les barrières douanières tombent parce que pour qu'ils puissent davantage vendre en Chine.
Oui.
Donc, à la limite, les Chinois, il a dû leur dire c'est à lui qu'il faut en pointant Trump du doigt. Donc, c'était plus s'entretenir avec Trump. Et là... quand on entend toutes ces déclarations incroyables de Trump, toujours à dire c'est les US, US first, et mettez nos milliards là-bas. Et là, il a l'une des entreprises les plus florissantes, les plus en vue, tout ce qu'on connaît de NVIDIA, qui lui fait pas un bras d'honneur, mais qui lui dit
c'est ça que moi, tu vois, qui m'interpelle.
Ouais, non,
tu vois, c'est
étonnant.
Il s'est passé un truc. Et en fait, c'est pour ça que je dis que je suis pas un stratège pour le coup là, dans ces sujets-là, mais je me dis que dans ce voyage, il s'est effectivement passé quelque chose, voire peut-être même un passage de relais. Où, à un moment, les États-Unis ont dit « Ok, à la Chine, vous avez gagné, en fait. » dans le sens où quand même, en fait, tu ne mettrais pas une entreprise américaine avec autant de trucs. Aujourd'hui, s'il y a un conflit à Taïwan, non, tu sais que ce n'est pas les États-Unis qui gagnent.
C'est politique, justement.
Oui, mais tu sais que ce n'est pas les États-Unis.
Ou alors, il marginalise
le message,
la Chine.
Il est à deux bandes.
Il dit, voilà, moi, je vais être une tête de pont américano-taïwanaise, là, dans ce coin-là de la Chine. Et je marginalise partiellement la Chine sur des technologies très critiques.
Bah, tu peux
alors
pas
après,
en fait.
Non, mais le risque, la Chine, c'est Taïwan, qu'est-ce qui se passe guerre.
C'est pas les États-Unis qui vont les en empêcher.
Mais il y a un message à deux bandes. Et le voyage, évidemment, auquel il ne devait pas participer, finalement, il est monté en dernière minute dans l'Air Force One, le président d'NVIDIA.
Moi, je vois
un message à deux bandes. C'est que, en gros, c'est un message d'abord commercial très fort, d'une alliance beaucoup plus resserrée avec TSMC, dont NVIDIA dépend, parce que je vous rappelle quand même que la capitalisation boursière, qui est maintenant une des premières au monde, doit rassurer tous les gens qui investissent dans cette pépite. Et donc TSMC, c'est évidemment l'entreprise dont NVIDIA dépend, parce qu'on est encore dans les dépendances. Mmh. Et deuxième message, il est hautement politique, c'est qu'il n'est pas question que la Chine demain militarise Taïwan davantage, parce que sinon c'est aux États-Unis qu'elle aura affaire.
Bah,
donc
oui,
c'est pour moi un message à
deux.
Donald Trump a dit qu'il ne fournirait pas d'armes à Taïwan au cas où il y aurait une attaque de la Chine.
Voilà. Oui, donc c'est pour ça
qu'il se désolidarise.
Mais le bijou de famille TSMC, que tout le monde lorgne, la Chine en premier, même si elle a des concurrents, il ne faut pas l'oublier. Il y a quand même des entreprises chinoises de semi-conducteurs, mais elles n'arrivent pas au niveau de TSMC, le nanomètre qu'elles cherchent à produire. Mais ça viendra peut-être.
Mais tu fais bien de le rappeler, hein. C'est exactement ça, moi, qui m'interpelle. C'est qu'en effet, pour moi, Trump sur Taïwan a capitulé quand il a dit je n'y vais pas.
En tout cas, il a clarifié la situation. Il n'a peut-être pas capitulé parce que c'était peut-être la position, on va dire, politique des États-Unis depuis longtemps là-dessus.
Oh là, ça a été très clair quand même sur le dernier voyage. Les Chinois ont dit on peut parler de tout, mais commence pas à parler de Taïwan.
Ouais, ouais.
C'était le message clair de Trump.
Oui, mais justement,
c'est dépendance croissante de l'Occident à Taïwan. Voilà, là, on a compris clairement le message. Et pour moi, il y a un signal politique qui est donné à Pékin.
Bien sûr.
C'est ça. Taïwan.
Mais donc, la guerre n'est pas déclarée, mais elle est une manche pour les États-Unis aujourd'hui.
Alors là, je vois pas du tout ça comme ça. Mais bon, moi, c'est pas mon domaine. Mais je vois pas ça comme une manche.
Est-ce que c'est pas aussi
américain qui aujourd'hui fait son siège à quelques encablures du siège de TSMC? Bien sûr que c'est extrêmement puissant comme guerre commerciale.
Et ça leur apporte quoi, concrètement?
D'être au plus près de ceux qui fabriquent les bijoux de famille de toute l'industrie.
Ils n'ont pas besoin d'être prêts, en réalité.
Bien sûr que oui.
Tu n'as pas besoin, et jusqu'à présent, ils n'ont pas eu besoin. Pourtant, ils sont toujours en domination sur ces GPU. Tu n'as pas besoin d'être dans l'usine d'à côté.
Après, est-ce que Jensen Yang peut inverser la vapeur? C'est-à-dire qu'en donnant tous ces investissements, en lançant tous ces investissements à Taïwan, est-ce que ça peut aussi ralentir les velléités de la Chine d'envahir en fait Taïwan? Parce que je sais pas, est-ce que c'est pas aussi une fuite en avant de la part de Nvidia?
Quelque part, il a déjà réinvesti la vapeur entre le logiciel et le hardware. Il remet le hardware au cœur de tout ça, hein, parce qu'il y a les puces, il y a les data centers derrière. Il va y avoir, parce qu'il le dit, il faut des infrastructures énergétiques derrière.
Bien sûr.
Il y a tout le côté packaging, hein, parce que la puce c'est bien, mais il faut la mettre dans Blackwell, il faut la mettre dans les systèmes Hopper et tout ça. Donc là aussi, il consolide un peu tout ça. Il montre que le hardware est encore bien présent, puis lui ça l'arrange parce que c'est la valorisation de son entreprise. Pour moi, il met un dôme au-dessus de la Taïwan.
Ça s'appelle le bouclier de silicium là-bas, dans le jargon.
Ouais. Bon, qui tient pas face à l'armée chinoise, mais bon, ça c'est un autre sujet.
Mais les Chinois, c'est des commerçants, c'est pas des.
On verra.
Oui, mais bon, on a quand même des messages de la part des plus hautes instances chinoises qui disent un jour ou l'autre, on va reprendre Taïwan.
C'est ça, c'est ça,
si tu veux.
C'est dans le temps.
On sent que c'est au travers de la gorge. Et que,
surtout sur Xi Jinping qui doit montrer que son règne a donné quelques.
Bon, en tout cas, ça va être évidemment très intéressant de suivre tout ça, parce que si un jour la Chine envahit Taïwan, les conséquences.
Pour l'instant, ce que fait la Chine, c'est qu'elle elle rend attractive sa Chine et qu'elle dit aux Taïwanais, et ça c'est assez documenté, venez travailler en Chine, c'est bien mieux qu'à Taïwan.
Mais les Taïwanais ne veulent pas.
Il y en a beaucoup qui y vont.
Oui, mais le pouvoir en place.
Bien sûr, à Shenzhen,
le pouvoir en place n'est pas pro-chinois, n'est pas pro-Pékin, si tu veux.
Donc, pas du tout.
Bon, enfin, c'est un sujet...
C'est assez complexe.
Évidemment en fait. Complexe. On verra comment tout ça évolue. On reste dans, évidemment, ce business des puces. On en avait parlé il y a quelques jours de cela. Les résultats records de Samsung, mais aussi de SK Enix. Je ne sais pas si vous connaissez cette boîte qui est voilà, aussi très impressionnante, qui fabrique des processeurs. Évidemment pour l'IA, qui a explosé sa valo, qui dépasse 1000 milliards de dollars, tout comme d'ailleurs Samsung. Je voulais qu'on s'arrête sur la conséquence de la menace de grève qu'avaient brandi en quelque sorte les collaborateurs de Samsung Electronics, 78 000 personnes quand même, hein, oui. Qui avaient dit « si on n'est pas intéressé aux résultats faramineux que vous êtes en train de faire, eh ben, on arrête tout, on ferme les usines. » Bon, évidemment, branle-bas de combat chez Samsung, on en avait parlé la semaine dernière. Ils ont réussi quand même à négocier une prime, Fred, monstrueuse de 280.
Oui. Ceux qui auront le plus... Ouais, voilà,
Oui,
il y aura une échelle, mais ceux qui vont toucher le plus auront une prime voilà, d'environ...
290 000 euros.
Voilà, 290 000 euros.
Pas mal.
Ce qui est quand
plus
pas mal.
Plus une augmentation de quelques pourcents, enfin, etc.
Et puis le petit signal envoyé à l'avenir, parce que si on continue à monter, si Samsung passe à 2000 milliards de valorisation, bah, les prochaines renégocieront aussi une petite rallonge. Non, c'est...
Donc on voit que Samsung, la direction de Samsung a cédé, malgré tout. Hein ? Alors, est-ce que c'est une décision du gouvernement sud-coréen ou est-ce qu'ils étaient un peu au pied du mur et avaient vraiment peur de cette menace de grève qui aurait mis par terre, en fait, toute la production de puces au niveau chez Samsung ?
Moi, ce que je vois là-dedans, c'est souvent, on se dit, tiens, quand on est chez Nvidia, on travaille chez Nvidia, on est un gagnant boursier. C'est-à-dire, si on reçoit des actions régulièrement, hop. Je trouve qu'il y a on se rend compte que chez Samsung, c'est pas seulement des gagnants boursiers, mais c'est vraiment, les salariés deviennent une élite stratégique, quoi. On a vraiment dit, ben oui, ces gens-là, il faut pas qu'on leur déplaise. Alors, en plus, les répercussions, on en parle pour Samsung, mais ça aurait été des répercussions mondiales. On en a parlé plusieurs fois, on peut aller écouter tous nos débats en replay. Dessus, ouais. On a dit que voilà, l'économie qui, déjà, l'environnement géopolitique est un peu compliqué, mais là, ça aurait donné un coup de poing dans tout ça. L'IA change aussi le rapport social. Je ne sais pas si dans d'autres époques, dire on fait grève et il n'y aura pas de puces. Là, aujourd'hui, on voit que l'IA, c'est tellement. On ne peut pas se permettre, parce qu'il y a eu des grandes grèves déjà en Corée et même chez Samsung. Là, on se rend compte que l'IA, on ne peut pas se permettre.
Bon, quand les cheminots de la SNCF se mettent grève lors des grands départs en vacances, il y a une oreille plutôt attentive de la direction, mais c'est pas le même niveau. Je suis d'accord.
Et puis quelque part,
ils ont fait les mêmes niveaux de rémunération.
Et quelque part, il faudrait en parler avec des gens qui connaissent bien ce peuple de Corée du Sud, c'est que ça devient un enjeu, un débat de société. Quoi, l'IA devient un débat de société. Enfin, je trouve que ça nous apprend plusieurs choses sur la façon de fonctionner des Coréens du Sud.
Ah, c'est marrant que tu dises des Coréens du Sud, parce que pour moi, ça dépasse la Corée, en fait. C'est ce qui va se passer dans tous les pays. En fait, là, pour moi, au-delà de Samsung, la question, c'est plus de se dire, comment tu redistribues la valeur? Okay. Est-ce qu'à un moment, tu as une entreprise qui fait d'énormes profits? C'est quand même 750% de croissance en un an sur les bénéfices, hein, Samsung. Donc, est-ce qu'à un moment, toi, parce qu'en plus, tu parlais d'NVIDIA, dans les entreprises américaines, dans ce type d'entreprise, souvent, tu vas avoir des stocks. Et forcément, plus il y a de la croissance de l'entreprise, plus tu vas avoir des actions. Tu vois, dans des entreprises coréennes, pas forcément toujours. Tu vois. Donc, c'est aussi à un moment, tu te dis, tu vois ton entreprise qui gagne beaucoup et toi, tu as le même salaire. Donc ça repose des questions même au-delà de la Corée.
Mais tu sais qu'ils envisagent même un dividende national.
Mais bien sûr,
que toute la population pourrait, pas seulement les 78 000, pas 300 000 euros chacun, mais oui. Que certains touchent 1 000 euros par-ci.
Parce qu'aujourd'hui, ça représente une grande partie du PIB qui est fait aux exportations.
Réclamé auprès des LVMH en France.
Oui, mais regarde, c'était la même chose qu'il y avait eu, c'est la même chose qu'il y avait eu au début de l'IA, si tu veux, avec la notion de revenu universel. Mm-hmm. À un moment, si tu crées énormément de valeur, il y a quelques entreprises qui gagnent énormément de valeur. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont gagner moins. Comment tu fais en sorte de redistribuer cette valeur? Donc c'est pour ça que pour moi, ça dépasse la Corée du Sud. Ça va jusqu'à... C'est quoi finalement une entreprise moderne aujourd'hui? Et jusqu'à quel point un collaborateur, un salarié est prêt à se dire bah, « Je vois que moi, l'inflation, elle est là et j'ai pas forcément un... » Et attention, je suis pas ni à droite ni à gauche. Je fais pas de politique là. Pardon ?
Moi, pour moi, ça reste cantonné en Corée du Sud.
Non.
Ah, bah non.
Non, non.
Bah non, t'as déjà ces débats-là aux États-Unis.
Je suis en train d'enquêter là-dessus en ce moment.
Ah oui. Ah non, mais carrément pas. Pour moi, mais c'est évident. Tu vois une une société, je ne parle pas d'une entreprise, d'une société globale.
Pour ce cas-là, après qu'il y ait un dividende réparti valeur, d'accord.
Aux États-Unis, ils parlent déjà d'AI dividend.
Non, mais ça, on en parle depuis 10 ans.
Oui, mais là, c'est plus concret.
Regarde, si tu prends OpenAI, donc avant OpenAI, donc il y avait, enfin il y a toujours d'ailleurs, il y a un truc qui s'appelle Open Lab. Open Lab, c'est même Sam Altman qui l'avait lancé en 2016, je crois, et c'était une grande étude sur le revenu universel.
Oui, oui, non, mais ça, c'était lié à la destruction potentielle des emplois, liée à l'émergence de la
technologie. Oui, mais AI dividend, c'est la même chose, si tu veux. C'est-à-dire qu'à un moment, on crée de la valeur, on crée de la richesse.
On parle des profits générés par le fournisseur IA lui-même.
C'est ça dont il parle sur OpenAI. C'est-à-dire, à un moment, on va générer tellement de richesses. Qu'est-ce qu'on fait de cette richesse, sachant qu'il y a des gens qui vont...
Non, la question d'Open Lab, de Sam Altman, qui avait monté d'ailleurs une entreprise philanthropique au départ, quelle blague, c'était de dire... comme c'est schumpeterien et qu'OpenAI va détruire des emplois et parce que les autres vont se créer et ça va détruire ces emplois, il va y avoir une colère sociale importante, c'est normal, puisqu'on va détruire des jobs quand même, ça va toucher à la dignité des gens, au niveau de vie, donc ça va créer de la colère. Et donc pour ça, il faut qu'on puisse comme on dit en anglais, et dire si la destruction d'emplois elle est estimée à temps, alors il faut mettre en place effectivement un revenu universel. Après, ça a été assez
difficile. C'est Elon Musk aussi qui défendait ça.
Bien sûr.
Mais là, c'est plus sur une question pure.
AI Dividend, c'est la même chose, en fait.
Ce qu'ils appellent AI Dividend, là, c'est les syndicats qui mettent en place cette idée du AI Dividend, qui est très économiquement basique, en fait. C'est juste de redistribuer, comme tu le disais très bien, redistribuons les profits, en fait, à l'ensemble de l'entreprise. C'est pas la même chose que compensons la perte d'emploi. Tu vois la différence?
Si, c'est la même chose, en fait. C'est la même chose.
C'est là où je dis que moi, pour l'entreprise, ça reste purement coréen. Et après, pour l'emploi, par contre, je suis d'accord, là, c'est au niveau. Pour la société, c'est au niveau mondial. C'est là où je dis qu'il y avait.
Pour moi, pourquoi je te dis que c'est la même chose? Parce qu'en fait, à un moment, comment tu vas faire plus de profit? Parce que tu vas être beaucoup plus productif, mais aussi tu vas être plus productif parce que tu vas te séparer aussi d'un certain nombre de c'est triste à dire, mais de lignes qui sont coûteuses dans une entreprise, et ce sont des emplois. Donc c'est aussi ça qui te permet d'améliorer ton EBITDA quand tu fais une revue comptable de ta boîte, c'est ça. C'est rien d'autre. Donc la création de valeur, elle n'est pas que parce que je crée plus, c'est aussi parce que je réduis mes coûts.
Ouais. Mais derrière ce sujet, il y a des sujets intéressants de on en reparlera peut-être, mais il y a beaucoup de sociologues dans le monde entier qui est de chercheurs qui se posent la question d'une nouvelle lutte des classes. Parce qu'en fait, le sujet derrière Samsung, c'est pas tellement de redistribuer correctement la richesse et de effectivement compenser une perte, etc. C'est un peu plus profond dans certaines zones du monde où on parle de tâches pénibles, on parle des data workers, on parle de la pénibilité de certaines tâches IA, voire même de choses plus que pénibles. Et en fait, il y a des recherches qui sont publiées là récemment qui disent qu'en fait la question de l'IA va être aussi la question de une question purement sociale. Alors, ils disent pas qu'il va y avoir des choix, il n'y a pas de prédiction et de futurologie. Mais il y a une vraie question qui se pose un peu partout, liée aux data centers, liée aux data workers, liée aux montants pharaoniques que tout le monde entend, dont tout le monde entend parler. Et donc, il y a des questions potentielles qui se posent socialement assez importantes.
Mais alors, c'est intéressant parce que, je ne suis pas tout à fait tout le temps d'accord avec Elon Musk, mais ça fait un moment qu'il a ce discours-là. Il dit, quand l'IA tournera à plein régime et que les robots commenceront véritablement à arriver, il y aura des destructions d'emplois majeures. Il va falloir trouver un système pour repartager les richesses, parce que autrement, on va se retrouver avec des millions de gens qui n'auront plus de maison, plus de rémunération, plus rien.
Et des robots qui produiront pour personne.
Voilà, il va falloir que ces machines. Alors lui, c'est assez intéressant ce qu'il dit. Il dit ces machines vont créer de la valeur pour les humains qui ne travailleront pas, en fait.
Oui, mais il a tout intérêt parce qu'il amène quelque part un mini cataclysme quand même d'un point de vue social à aussi apporter la solution.
Bien sûr, oui.
Mais et même les autres fondateurs aussi des autres fonds.
Bien sûr, mais c'est plutôt intéressant qu'il se penche sur ce sujet quand même, parce qu'il pourrait très bien dire, écoutez, vous vous débrouillez, on verra ce que ça va faire. Mais là, il y a quand même une certaine responsabilité. On verra si si ça arrive, parce que finalement Sam Altman a dit l'inverse de ce qu'il avait dit récemment. Je ne sais pas si vous avez suivi.
Il a tempéré.
Il dit je me suis trompé. Je pensais que en fait l'IA allait détruire énormément d'emplois. Finalement, alors je ne sais plus si c'est à court terme ou à moyen terme, on le voit pas comme on l'avait imaginé.
Je trouve que c'est mal interprété ce qu'il a dit. Et peut-être que je me trompe. Mais pour moi, il a pas dit l'inverse. Il a tempéré. C'est-à-dire qu'il, pour lui, c'est arrivé. Il pensait que ça arriverait plus vite. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Pourquoi aussi aujourd'hui, et je le vois, moi je suis tous les jours dans les entreprises, on me pose encore la question là ce matin, est-ce que tu penses que les comités de direction dans les entreprises, elles ont bien compris la portée de l'IA ? La réalité, non, c'est parce qu'aujourd'hui, quand tu te retrouves dans une entreprise, au mieux on a déployé un peu de ChatGPT ou de Copilot, et c'est pour faire des emails. Donc forcément, si demain tu fais mieux tes emails, c'est pas ça qui va apporter de la valeur dans ton entreprise, donc c'est pas ça qui va à un moment mettre à risque un certain nombre de jobs. Par contre, si tu utilises véritablement le comme c'est fait, soit tu vas avoir deux types d'entreprises, soit celles qui vont se dire j'utilise bien, mais je vais quand même garder les gens que j'ai parce que ils sont bons et ils vont être encore meilleurs grâce à l'IA, et ceux qui vont se dire j'ai des collaborateurs qui n'ont pas forcément envie de bosser, qui ne vont pas forcément être passionnés par ce qu'ils font, plutôt que les embêter quelque part à faire un truc qu'ils n'ont pas envie de faire, ils vont rester chez eux et on va mettre une IA à la place et eux, ils auront un revenu universel. Mais ça, pour moi, je n'arrive même pas à comprendre comment on n'arrive pas à le voir, en fait, tu vois. Ni au niveau des entreprises, ni au niveau des politiques. C'est une évidence, quand tu sais bien utiliser l'IA, qu'à un moment, tu as des vrais gains qui sont phénoménales.
Mais cette révolution, elle est très rapide.
Oui, mais c'est pas parce que c'est en fait ce que dit Sam Altman, de la façon dont je l'interprète, c'est que ça n'est pas allé aussi vite. Mais parce que quand tu regardes, parce que lui, il est dans la Silicon Valley depuis toujours.
Oui, il a le nez dedans,
mais il sait pas ce que c'est de bosser dans une corp, dans un grand groupe.
Il y a quand même une inertie pour changer la couleur
du canapé, ça va prendre trois jours ou trois ans, peut-être.
Mais même sans être dans une grande corp, je reviens sur l'audition dont tu parlais de Arthur Mensch par la mission parlementaire. Il le dit à un moment, il dit à un développeur chez Mistral, alors qu'il développe plus, qu'il crée plus une ligne de code, etc. Enfin, ça, c'est un autre débat. Mais enfin, il dit, il est productif, il va 10 fois, 20 fois plus vite. Par contre, dès qu'ils sont en équipe, eh ben là, la productivité, elle chute lourdement parce que c'est la communication, parce que, il faut que chacun interagisse avec les uns avec les autres. Donc, c'est là où on voit que, oui, individuellement, on a l'impression on gagne en productivité individuellement, mais on ne sait pas trop la répercuter au niveau de l'entreprise. Et puis, alors, quand on bosse en équipe, c'était encore plus compliqué.
Moi, c'est mon point depuis toujours, c'est de dire, à un moment, si tu as des grosses ruptures technologiques et si tu veux faire de l'adoption dans les entreprises, tu es obligé de bosser sur les compétences humaines, les soft skills des gens. Et tu dis, communication, il n'y a pas que ça, il y a la collaboration, il y a plein de choses qui font que ça prend ou ça prend. Et aujourd'hui, l'adoption de l'IA, aujourd'hui, ça ne prend pas dans les entreprises, en tout cas, pas suffisamment vite. Donc, on ne peut pas dire que parce que ça ne prend pas, l'IA n'est pas suffisamment puissante. On peut juste dire qu'on s'y est mal pris et qu'il faut s'y reprendre un peu mieux.
On va arrêter sur ce sujet. Tiens, puisqu'on parle d'IA, sachez que demain dans Tech & Co, invité exceptionnel, je recevrai l'un des cofondateurs de Mistral, Timothée Lacroix, qui est le CTO en fait de Mistral. Longue interview que nous vous diffusons demain soir pour évoquer toute l'actualité de Mistral, qui est quand même assez riche.
Qui fait son grand raout demain.
Oui, voilà.
Avec Carousel du Louvre à Paris. Avec des grands patrons.
Parrainé par Mistral, etc. Et c'est à cette occasion d'ailleurs que sera réalisée cette interview depuis le Carousel du Louvre. On enchaîne tout de suite avec toujours l'IA, mais cette fois-ci plus grand public, qui était très attendu, c'est celle d'Amazon qui veut donner une deuxième vie à ses enceintes connectées. Peut-être avez-vous déjà suivi cette action, on l'a abordé un petit peu hier. Car après les États-Unis, il y a quelques mois, le groupe a lancé hier en France Alexa Plus, cette mise à jour qui met de l'IA générative dans ces petits objets qui avaient clairement besoin d'un petit coup de frais, c'est le moins qu'on puisse dire. Anthony Morel nous en parlait, c'était ce matin dans Good Morning Business.
C'est vraiment l'histoire de faire renaître un produit qui a fait perdre beaucoup d'argent à Amazon, parce que la première génération d'enceintes connectées, qui a été très à la mode il y a quelques années, elle a été vraiment remisée au placard, notamment à cause de ses limitations techniques. Si vous les avez déjà testées, vous savez qu'on peut pas enchaîner deux phrases, qu'il y a des problèmes de latence, et que ça, à l'ère de l'IA générative, ça devenait complètement impossible. Et donc là, l'idée avec Alexa Plus, c'est d'injecter justement ces nouvelles générations d'IA dans les enceintes connectées. Donc en l'occurrence, c'est du Anthropic et aussi du Mistral. Mistral, pourquoi? Parce que c'est l'IA qui parle le mieux français, donc pour le marché français, c'est intéressant. Et donc, ça permet eh bien, d'avoir un dialogue en langage naturel avec ces enceintes connectées et de leur donner aussi de nouveaux types de fonctionnalités, notamment des fonctionnalités agentiques, c'est-à-dire l'IA qui va pouvoir eh bien, permettre à ces enceintes de faire des choses dans la vie réelle, de commander une pizza, de commander, je sais pas, de réserver un restaurant, par exemple, ou aussi de se connecter à tout l'écosystème de la maison. C'est-à-dire, par exemple, à la télé, on peut lui demander je me souviens plus de ce film où on revit toujours la même journée et il va me lancer automatiquement le film correspondant, évidemment, que vous avez tous, que vous connaissez tous. Donc là, la mise à jour, c'est une mise à jour logicielle qui est disponible sur la plupart des modèles. Elle est gratuite. En revanche, il y a un petit changement de modèle économique parce que c'est seulement pour les abonnés Amazon Prime. Pour les autres, il faudra payer un abonnement de 20€ par mois. C'est une refonte totale, donc qui doit permettre de donner une nouvelle vie à ces appareils et de rester compétitif face à Google qui fait exactement la même chose, notamment en injectant Gemini dans ses enceintes Google Home.
Voilà, on passe véritablement à une autre ère de ces assistants vocaux qui existent depuis de nombreuses années, hein. Que ce soit Siri, Google Home, tu as bien connu puisque tu étais
j'en ai plein à la maison.
Chez Google, à l'époque de Google Home, il y avait eu énormément d'argent investi. C'était la guerre d'ailleurs entre Google et Amazon. Peut-être un peu moins Apple qui était un peu en retrait, mais c'est vrai que moi je me souviens de cette bataille des enceintes connectées entre Google et Amazon qui était vendue, j'imagine, à perte.
Mais pour
inonder le marché. Oui, on les donnait, ou alors...
Au-dessus de 50€
ouais,
d'achat.
Un téléphone, on t'offre une enceinte, etc. Pour, en fait, voilà, qu'on choisisse notre camp entre Google Home et Alexa. Google Home est déjà passé à Gemini, mais n'a pas fait... Enfin, Google n'a pas véritablement communiqué énormément là-dessus. Franchement, moi, je l'ai pas vu arriver. Alors peut-être qu'ils attendent d'avoir une, comment dirais-je, quelque chose qui marche vraiment bien pour communiquer officiellement. Mais donc là, l'actu, c'est Alexa Plus qui a été lancé hier en France. Et je voulais avoir votre avis là-dessus. Moi, je l'ai testé, c'est quand même assez impressionnant. Le fait de se dire, bah tiens, commander, réserver une table d'un resto sans avoir à prendre son téléphone, c'est quand même une petite révolution. Et ça marche. Ça marche. Et il y a plein d'autres innovations comme ça. Il me tarde de pouvoir le tester, véritablement. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, puis en plus, visiblement, l'assistant conversationnel... Alors, tu nous as dit qu'il y avait un petit délai de latence encore.
Oui, voilà. Il y a encore 4 à 5 secondes de latence à partir du moment où vous posez votre question, où vous avez la réponse.
Mais par contre, par rapport... J'ai écouté l'interview d'hier soir du patron d'Alexa Plus, ici même. C'est vrai que si on devient un assistant conversationnel qui apprend nous aussi, qui personnalise, enfin, il donnait plusieurs exemples. On demande à Alexa de préparer des menus pour le soir. Elle va se souvenir que dans la famille, il y en a un qui est végétarien, donc elle va préparer en conséquence. Bon, il y a l'intégration de Mistral aussi, parce que ça aussi, on avait un gros souci quand même avec Alexa, c'est très américano-américain dans la façon de répondre, même quand on lui posait des questions historiques, hein, qui a inventé l'aviation, choses comme ça.
Ouais, c'était un peu...
On oublie nos faucheurs de Marguerite, on partait directement avec les frères Wright, etc. Et même pour l'ordinateur. Enfin, il y a plein de choses qui n'allaient pas. Là, donc, ils vont utiliser Mistral pour justement avoir...
En fait, ils ont francisé Alexa Plus grâce au LLM de Mistral.
Et donc derrière, on voit que pour Mistral déjà c'est bien, ça montre que ça devient un vrai actif stratégique. Et puis là, je pense qu'il réanime un peu la bataille de la maison connectée.
Alors, par rapport à Google Home. Est-ce que tu as toujours Google ou de passer à Alexa?
C'est la cave au grenier. Je ne sais pas combien d'objets connectés Google. Donc, je suis très Google. Après, c'est pas parce que j'aime pas Amazon, donc je connais pas trop Alexa. Mais ce qui est assez rigolo, moi, ce que je vois là-dedans, avant de répondre à ta question, c'est, tu te rends compte qu'il y a 10 ans à chaque fois. C'est rigolo, hein, sur chacune des technos. Il y a 10 ans entre le moment où on commence et ça commence à être bien et tout le monde l'utilise. Tu vois, là, on parle de ça, mais les lunettes, on parlait des Meta, des machins. Pareil, il y avait les Google Glass il y a 10 ans. La voiture autonome, c'est pareil, ça commence à arriver. Et là, sur ces trucs-là, c'est bien, mais rien de neuf sous le soleil parce que c'était vraiment les plans qu'il y avait à l'époque, à l'époque où je bossais chez Google. C'est juste plus fluide, si tu veux. Mais l'intention a toujours été là. Et l'intention... Au-delà du gadget, c'est de se dire que comment j'arrive à dépasser le browser, où à un moment, tu as un Google ou un Alexa avec ses commandes dans ton site Amazon, comment j'arrive à avoir un peu plus d'emprise sur l'utilisateur. Parce que là, une fois qu'il est dans la maison, bah, tu connais toutes les habitudes, à quelle heure rentre la personne, à quelle heure il part, à quelle heure il éteint la lumière, à quelle heure, tu vois, à quelle heure il passe ses commandes, qu'est-ce qu'il regarde à la télé. C'est énorme. Donc évidemment qu'il y a une grosse guerre là-dessus pour se dire qui est-ce qui va rentrer dans la maison et qui va pas juste te connaître toi, mais ta famille, tes amis, etc. Donc c'est assez intéressant. Après là,
parce qu'ils ont beaucoup perdu d'argent avec tout ça.
Oui, mais tu perds de l'argent pour en gagner derrière.
Ouais.
C'est toujours pareil.
Mais
ça
bon,
s'appelle un investissement.
Au bout de 10 ans, surtout tu dois commencer à tirer la langue, non?
Non. Tu vois, on parlait tout à l'heure de...
Champion de la dette,
je sais plus
Amazon.
Si c'était off ou
Amazon,
pas off. On parlait tout à l'heure de la France versus les États-Unis. Bah, c'est le sujet, c'est qu'à un moment, il faut savoir, c'est pas perdre de l'argent, c'est investir pour gagner un moment. Mais une fois, aujourd'hui, une fois que tu as dit ça, c'est quoi le Français ou l'Européen qui vient dans la maison connectée? Il n'y en a pas. Donc, ils ont peut-être investi ou perdu, ça dépend comment tu te places. Mais aujourd'hui, ça va être Amazon ou Google. Donc, je n'ai pas testé Alexa. Par
et
contre,
puis, il y a Siri qui... On, voilà.
Ouais.
Apple alors, se prépare aussi à rendre intelligent son Siri. Ça va être annoncé dans quelques jours à la WWDC.
Moi, c'était le plan de survie. Hein. Il faut que ça marche.
Oui.
Sinon,
oui, mais ça va marcher un moment. Tu vois bien, déjà, quand tu le fais avec ton LLM de base, si tu le fais avec un chat GPT, tu as déjà une vraie conversation. Donc là, ils sont en train de passer. Google, d'ailleurs, a basculé aussi sur Gemini, là, sur Google Home. Et l'interaction est plus fluide. Je trouve que c'est pas encore ça. Donc Alexa, j'ai pas testé, mais qu'en penses-tu, toi ?
Tu as testé tout ça, toi,
Marion,
ou pas ?
J'ai pas testé. J'en ai testé il y a longtemps. Tu vois, les premiers devices, effectivement, et c'est vrai que c'est bluffant. C'est une extension interface, hein, en fait. Hein, tu connais ça mieux que nous, mais c'est une extension stratégique parce qu'effectivement, c'est la domotique, c'est maintenant l'IA, c'est la captation de données qui est quand même à haute valeur ajoutée. Très haute valeur ajoutée. Non, la question que je me pose, et c'est effectivement une extension aussi du domaine de la lutte entre grandes puissances, mais la question que je me pose, c'est le deal Mistral AI là-dedans, et des 70 LLM, je crois qu'ils sont intégrés, 70 oui. LLM dans le...
Alors, il y a le LLM maison de Amazon qui est Nova, ouais. Il y a aussi Anthropique. Bon,
Amazon a investi beaucoup d'argent. Pour l'e-commerce.
Exactement. Et en fait, à partir du moment où tu poses ta question, suivant ta requête, c'est oui. En fait, Amazon va choisir le bon LLM pour te répondre.
Oui, j'ai compris l'usage, c'était plus côté business pour Mistral AI. Que récupère Mistral AI à être intégré dans les Alexa Plus ? C'était plus la question que je me posais.
Ça a dû être un contrat de prestation. Oui. Ouais. On posera la question demain à notre... À notre Timothée Lacroix, tiens, ça va être intéressant.
C'est intéressant d'entendre sa réponse.
Ouais, oui. Je suis pas sûr que j'arrive à avoir une réponse concrète. Mais on essaiera, écoutez. On va mouiller la chemise.
J'écouterai.
On va essayer.
Ce qui est quand même intéressant, juste un mot sur Alexa et du Mistral en ligne d'urgence, c'est qu'on passe quand même d'une plateforme qui était plutôt fermée à une plateforme assez ouverte. Hein. Alors, au-delà des partenaires, hein, j'entends vraiment avec les LLM à l'intérieur, on a Mistral qui s'impose comme un actif stratégique européen important, donc ça c'est plutôt...
Oui, mais elle est obligée d'être ouverte, parce que quand tu regardes aujourd'hui...
Oui, non, mais je suis d'accord.
Non, mais elle est obligée dans le sens où si tu regardes c'est quoi l'IA d'Amazon, il n'y en a pas.
Oui, mais
donc, si à un moment tu vas avoir cette conversation...
Avant, c'était assez fermé. Hein, comme...
Oui, mais c'est pour ça qu'on avait Alexa qui était...
Il nous reste 5 minutes, j'aimerais qu'on prenne un peu de hauteur, comme nous allions terminer sur la Lune, un peu de poésie dans ce monde de brut, et nous intéresser à la NASA qui, véritablement, veut aller sur la Lune, et très vite. On parle de 2030, là, hein, c'est demain, a annoncé un plan très ambitieux, carrément faire une base spatiale, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais une base lunaire qui ferait des milliers de mètres carrés, c'est-à-dire que ça me fait penser à Cosmos 1999, une série qu'on regardait quand on était petit, Fred, et où il y avait ces bases lunaires qui étaient immenses, et ben voilà, ça arrive 50 ans.
Et on s'imaginait qu'en 1999, ce serait ça.
Ben voilà, ben c'était pas arrivé, hein,
non,
finalement.
Les voitures volantes...
Il a fallu attendre 50 ans. Oui. Évidemment, ça nécessite énormément de partenariats avec diverses boîtes et juste un petit clin d'œil à Blue Origin qui a réussi à décrocher malgré tout des missions pour ce fameux projet de conquête de la Lune et je voulais avoir votre avis là-dessus parce que c'est intéressant de voir que évidemment on parle beaucoup d'Elon Musk et de Starship et de SpaceX mais voilà. Jeff Bezos est encore dans la course de l'espace et de tout ce qui touche à ce secteur.
Il n'a jamais cessé de l'être.
Non. Hein,
c'est des gros investissements, c'est un programme avec des partenariats.
Mais on voit qu'il a plus de mal avec Blue Origin que Elon Musk avec SpaceX, tu vois.
Mais c'est Kuiper, la constellation qu'il veut créer, si on reste dans le champ spatial, pas tout à fait la Lune, c'est la constellation, le concurrent finalement de Starlink.
Qui a été rebaptisé Léo d'ailleurs.
Qui a été rebaptisé Léo, tout à fait, c'est vrai. Mais c'est quand même Jeff Bezos qui est derrière. J'aurais du mal à me dire qu'il fait un gros fail et qu'il se rattrape avec Blue Origin sur la Lune. Moi, je pense que c'est quand même aujourd'hui un des hommes les plus crédibles sur les conquêtes auxquelles on assiste ou le futur de la conquête. C'est aujourd'hui le bras armé quand même de la NASA. Hein,
tous ces jeunes acteurs, milliard hein, avec la NASA.
Voilà, c'est la NASA toute seule peut pas faire sans eux aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant. Peut pas faire sans Amazon, peut pas faire sans Musk.
SpaceX, c'est l'un des partenaires, si tu veux.
Non, pas sur la Lune.
Ah bah, il y a Artemis, quand même. Je crois que Starship, c'est Artemis.
Oui, parce que le vaisseau qui aidera les astronautes à venir atterrir sur la Lune, ce sera SpaceX qui le transportera.
Oui, voilà. Donc, ils sont tous... En fait, on a l'impression que la NASA a partagé...
C'est un consortium.
Voilà. Mais, en tout cas, Jeff Bezos est toujours dans la course, Fred.
Non, ce que l'on voit, moi, je trouve, c'est que ça y est, la Lune, avant, c'était la recherche scientifique, c'était la conquête...
Plus symbolique qu'autre chose, finalement.
Le côté humain, on imaginait faire quelques expériences. Et là, on se rend compte que peu à peu, c'est en train de devenir un enjeu économique, un enjeu géopolitique, parce que ce qu'il faut voir derrière, pourquoi ils accélèrent les États-Unis.
Parce que la Chine.
Un peu comme l'effet Spoutnik des Russes, c'est que les Chinois sont en train d'avancer. D'ailleurs, j'ai vu un truc incroyable, ce sera creusé. Les Chinois, ils veulent envoyer des cellules souches humaines, des embryons humains, dans l'espace pour voir
comment ils se développent.
Ouais, là, je me dis, oula, on commence à rentrer dans la science-fiction, tu sais, des gens qu'on envoie à bébé.
Non, en matière d'éthique, on laisse tomber. Ça sert à rien.
Et dans 30 ans, ils
sortent. On envoie du vin déjà dans l'espace, c'est Nicolas Gaume qui
fait
ça.
Oui, c'est vrai, tu as raison.
C'est un Français qui fait ça.
Le vin, et même le vin spatial, il faut le boire avec modération. Tu sais, à la télé, à la radio, comment ça marche.
T'as goûté? T'as eu cette chance?
Non, mais ce qu'il faut voir, c'est où est-ce que l'Europe va réussir à se situer là. Donc, on arrive dans la dernière mission qui a fait le tour de la Lune là pour préparer justement Artemis. Ben, on avait un module fait par l'Agence spatiale européenne, le module de vie. Donc, il faut voir où nous, on va se situer tout ça. Mais voilà, on sent qu'il y a une vraie bataille qui est en train de se mener, technologique, géopolitique.
Et puis, rappelons que c'est l'entraînement pour après aller sur Mars.
Un jour.
10 ans plus tard, sans doute.
Il y a juste, si je peux me permettre, un truc moi, qui me fascine dans cette course de l'espace, c'est quand tu regardes, ça reste des anciennes boîtes tech de la Silicon Valley. Et tu vois en fait que c'est en train de se déplacer non seulement vers l'espace, et là j'étais avec une autre boîte où on parlait de ça aussi, vers le militaire. Tu vois. Et en fait, cette Silicon Valley, elle est de plus en plus sur des trucs hyper stratégiques, là où avant c'était pas la même mission.
C'est la DARPA qui avait le lead, mais là c'est ça s'est inversé. Mais ça s'est fait inversé. sur des subventions publiques quand même.
Ouais, mais c'est fou de dire que maintenant en fait tout ça, aussi bien dans le militaire que dans l'espace, c'est des boîtes privées en fait qui étaient. Je sais pas si vous voyez Anduril par exemple. Vous voyez Anduril avec le patron d'Anduril, c'est quand même celui qui a fait Oculus. A vendu ça.
Oui, c'est clair. Oui.
Maintenant, il fait du militaire. Tu vois.
Il fait du militaire.
Et tu te rends compte que.
Silicon Valley, c'est quand même un peu créé sur des investissements militaires au départ.
Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, avant, quand tu allais dans la Silicon Valley, encore une fois, j'ai passé beaucoup de temps, c'était pas les mêmes objectifs. Là, tu as des objectifs qui sont.
Oui, on est passé du flower power à la. La military power, quoi.
La military power à la conquête de l'espace, quand même.
C'est vrai. Bon, allez, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Marion.
Merci François.
À très vite.
À bientôt.
Oui, Marion Moreau, journaliste et fondatrice d'Ornor Media. Si on se revoit pas d'ici Vivatech, bon Vivatech.
Ah oui, mais merci à toi aussi. Sur le stand du CNRS, venez nombreux.
Écoute, on viendra avec plaisir. CNRS, toujours passionnant. On adore avec Fred s'intéresser aux innovations du CNRS. Merci beaucoup à Salim Nassur, fondateur de Mars avec 2A.
Merci.
Et merci à toi, Fred.
Demain.
On se retrouve demain, bien sûr, pour commenter l'actu. Et vous restez là, on a encore une petite demi-heure à passer ensemble avec, au sommaire de cette deuxième partie. Tiens, on va rester dans la Lune avec Synopsis qui simule des missions lunaires et qui, justement, va travailler avec la NASA. Voilà, et c'est Made in France, Synopsis. Ils vont tout nous raconter dans un instant. Et puis après, petite révolution dans le monde du smartphone et des écosystèmes concurrents. Honor arrive à discuter avec les iPhones et à interagir avec les OS. Alors que vous le savez, Apple était très fermé. Ils vont nous expliquer comment ils ont fait tout cela. Et on aura un porte-parole d'Honor dans quelques instants. Et puis, juste après cette petite pause, ce sera le Tech Flash avec Léa Benaïm, comme chaque soir. À tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne Tech Flash.
20h32 sur BFM Business, merci d'être avec nous, que ce soit à la radio, à la télé, peut-être êtes-vous avec nous aussi en replay ou en podcast. Il est temps maintenant de retrouver, comme chaque soir, un condensé de l'actu tech du jour, ce qu'il ne fallait pas rater, c'est le Tech Flash, et c'est avec Léa Benaïm. Bonsoir Léa.
Bonsoir François et bonsoir à tous. Et à la une, Nvidia promet un déluge d'investissements à Taïwan. Le fabricant de puces passerait ses dépenses sur l'île de 10 à 150 milliards de dollars par an. Jensen Huang, qui qualifie d'ailleurs Taïwan comme l'épicentre de la révolution de l'intelligence artificielle. Il faut dire que le territoire reste incontournable dans la fabrication de semi-conducteurs, grâce notamment aux géants locaux comme TSMC et Foxconn. En Corée du Sud, la grève chez Samsung a été évitée de justesse. Les 78 000 salariés de la division semi-conducteurs vont toucher le jackpot jusqu'à 400 000 dollars de primes, soit l'équivalent de 10% des bénéfices opérationnels de l'entreprise. L'accord a été validé ce matin avec les syndicats, une annonce qui a rassuré les marchés. L'action Samsung a terminé en hausse de 3%.
Il y a dans l'actualité aussi l'Europe qui s'apprête à serrer la vis à Starlink et Amazon.
Et oui, Bruxelles veut réserver les deux tiers des fréquences satellites aux entreprises européennes contre seulement un tiers pour les groupes étrangers. Une décision qui doit favoriser la future constellation Iris Square et freiner l'expansion des Américains sur le continent. Mais de son côté, Washington menace déjà de représailles si le texte est adopté. Et puis DuckDuckGo cartonne en récupérant les utilisateurs lassés par Google et son IA. Le moteur de recherche qui mise sur la protection des données a vu ses téléchargements bondir de 30% seulement 5 jours après les annonces de la Google I.O. DuckDuckGo qui se présente désormais comme l'alternative pour ceux qui ne veulent plus d'IA partout, allant même jusqu'à appeler les utilisateurs à, je cite, « virer Google ». Et enfin, le fondateur de Dropbox démissionne après 19 ans à la tête du pionnier du stockage dans le cloud. À l'époque, Drew Houston avait refusé une offre de rachat à 9 chiffres d'Apple, qui avait ensuite lancé iCloud. Il laisse derrière lui un service utilisé chaque jour par des millions de personnes dans le monde pour se lancer, vous l'aurez deviné, dans un projet lié à l'intelligence artificielle. Et pour finir, Sony va changer son image de marque après 20 ans d'utilisation. On en parle dans Multijoueur, votre émission dédiée aux jeux vidéo avec Mélinda Davansoulas, à retrouver en podcast sur toutes les plateformes et en replay vidéo sur la chaîne YouTube de BFM Tech. Et on écoute tout de suite un extrait.
Est-ce qu'on se redirige vers un petit conservatisme chez Sony, Concarax ?
Oui, je pense qu'en règle générale, il y a quand même des changements à prévoir. C'est vrai qu'on a vu Herman Hulst, mais je pense qu'on va en parler auprès de Jason Schreier, je crois, chez Bloomberg, qui a dit voilà, les exclusivités potentiellement sur... il faut qu'on revienne aux exclusivités d'avant. On sait qu'ils sortent maintenant leurs jeux sur PC. Et voilà, c'est des choses qui sont quand même évoquées. Donc c'est vrai que... On peut revenir sur le côté des exclusivités.
Dessus.
Mais c'est vrai que PlayStation, en fait, la marque en elle-même, elle fait vendre déjà sans aucun souci. Et je pense quand même qu'il y a un petit essoufflement. Il y a un petit ras-le-bol aussi de la part des joueurs parce qu'il y a beaucoup de décisions qui sont prises dernièrement et on comprend pas trop. Il y a des sortes de revirements de situation, alors que ce soit sur les prix qui augmentent des consoles, sur les prix des abonnements qui augmentent aussi. Puis après, ils te font des promotions derrière et des soldes en te disant « Attends !» Elle revient en fait au prix initial auquel elle est sortie 6 ans plus tôt, la PS Fat ou la PS5 Pro. Et donc, c'est vrai qu'on commence à se poser pas mal de questions de si le consommateur aussi n'est pas un petit peu impacté sur le sujet.
Voilà, et retrouvez Multijoueur sur la chaîne YouTube de BFM Tech et sur l'appli de BFM Business. 20h36, on va retourner sur la Lune maintenant avec notre invité.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Florent Thébault est avec nous. Bonsoir Florent.
Bonsoir.
Vous êtes le vice-président Europe du Sud de chez Synopsys. Synopsys qui va envoyer des jumeaux numériques sur la Lune. En fait, vous allez nous expliquer ce qu'est Synopsys. Vous allez travailler avec la mission Artemis de la NASA. Tout à fait. Prestigieux. Bravo. félicitations, parce que j'imagine que la concurrence est rude dans ce type de partenariat. Est-ce que vous pouvez nous présenter Synopsys, déjà?
Alors, tout à fait. Synopsys, historiquement, c'est le leader mondial du design, de la conception de microprocesseurs, de semi-conducteurs. À l'été 2025, Synopsys a intégré la société Ansys, qui était le leader mondial de la simulation numérique physique.
D'accord.
On va y venir à la Lune, du coup. Mmh. Et alors, et pourquoi tout ça? Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a des grandes tendances de marché, qui sont comment les concepteurs de microprocesseurs prennent en compte les phénomènes physiques, mais également les industries plus lourdes, dont par exemple l'industrie spatiale, comment elle va, elle, modéliser les phénomènes physiques, mais également de plus en plus intégrer des microprocesseurs dans ces systèmes, et du coup pouvoir avoir une chaîne complète qui va du microprocesseur jusqu'au phénomène physique.
D'accord.
Alors, pour en revenir au spatial, en fait, on n'en est pas à notre galop d'essai sur la partie donc la simulation physique et système de chez Synopsys. En fait, on avait déjà collaboré sur la DART mission, je ne sais pas si ça vous parle.
Oui.
C'est quand, pour la première fois, l'humanité a dévié la trajectoire d'astéroïdes,
oui.
Qui était un événement assez unique. On avait également contribué...
Une espèce d'entraînement pour au cas où, un jour, on se retrouve avec une météorite qui nous fonce dessus.
Exactement. Et donc, en fait, Synopsys va représenter virtuellement l'environnement spatial ou les conditions physiques qui vont être trouvés dans l'environnement spatial. Si vous vous doutez bien, c'est très compliqué de faire du prototypage.
Ouais.
Et encore plus de reproduire ces conditions ici sur Terre. Donc on ne peut pas se permettre quelque part de le faire. Donc on est obligé d'utiliser la modélisation numérique.
Alors donc là, ça nécessite énormément de puissance de calcul, j'imagine.
Oui, tout à fait. Mais également des modèles physiques avancés. Mm-hmm. Et donc si on en revient à Artemis 2,
ouais.
En fait, on travaille avec la NASA sur trois sujets principaux. Le premier, vous savez, aller sur la Lune, c'est pour que les cosmonautes puissent faire des missions. Ces cosmonautes, ils ont une combinaison. Cette combinaison, elle est soumise à des rayonnements, à du plasma spatial, qui peuvent provoquer des décharges électrostatiques des batteries des combinaisons. Et vous doutez bien qu'avoir un cosmonaute qui n'a plus de batterie au milieu d'un champ lunaire,
c'est pas bon.
Ça fait désordre.
Ça fait penser un peu à Gravity, ça s'est mal passé à la fin.
Exactement, donc l'idée c'est de pouvoir le modéliser et s'assurer que cette batterie va tenir la charge dans les conditions lunaires. On peut parler des températures aussi, où on sait quand on est face soleil ou face sombre, on a des amplitudes thermiques complètement différentes.
Et alors c'est là ce que vous faites, si j'ai bien compris, c'est génial, c'est-à-dire que vous arrivez à recréer un jumeau de toutes ces pièces sensibles, c'est ça ?
Exactement, c'est-à-dire qu'on va modéliser ces pièces et on va recréer l'environnement physique auquel elles vont être soumises. Contraintes de température, champ de plasma, radiation, etc. etc.
Et voir si elles tiennent le coup, le choc en fait.
Exactement, parce qu'on pourra difficilement envoyer un courageux cosmonaute et lui dire bon courage.
Bon alors écoute, vas-y. On va voir si ça marche ou pas.
Exactement. Hein. Donc l'idée c'est ça, c'est de s'assurer que quand le cosmonaute va partir en mission, sur sa batterie, il est tranquille, il peut y aller les yeux fermés, ça va fonctionner. Le deuxième sujet, là on a un partenariat avec la société Cesium. Cette société elle a modélisé la topologie de la Lune. Parce que l'objectif de la NASA c'est de créer un réseau de communication sur la Lune pour permettre aux véhicules lunaires, aux cosmonautes, à la station ou à la base lunaire, j'ai entendu que vous aviez mentionné tout à l'heure dans votre émission, de pouvoir assurer la communication. Parce que là encore, perdre le lien avec un astronaute ou avec un véhicule, ça fait désordre et ce serait pas possible et c'est très complexe.
C'est sûr.
Donc là, avec des modèles électromagnétiques et également cette topologie lunaire, donc prendre en compte les cratères, les roches, etc., on est capable d'avoir des modèles qui vont nous permettre de s'assurer que ce réseau de communication, bien, je veux dire, un jumeau numérique de ce réseau de communication, va être fonctionnel.
Et là, c'est quoi? C'est de la 4G? C'est du Wi-Fi? Alors, bosse sur quoi, là, comme
alors, on parle de réseau Internet, de réseau de communication. Je pense qu'ils testent plusieurs hypothèses. On n'est pas forcément dans tout le secret des dieux.
D'accord.
Nous, on vient avec.
Oui, mais si vous simulez tout ça, vous le savez. En fait, plus ou moins, non?
Oui, tout à fait, mais on peut simuler plusieurs hypothèses, parce qu'il peut y avoir des notions. Est-ce que le véhicule va avoir le même système de communication, par exemple, pour son guidage, il est autonome?
Oui.
Est-ce que le cosmonaute, son réseau de communication, va peut-être être différent de sa géolocalisation? Enfin, il peut y avoir plusieurs degrés. Et le troisième point, c'est que tous ces dispositifs vont avoir des antennes. Et là, on vient aussi aider la NASA à faire des jumeaux numériques de ces antennes pour optimiser leur fonctionnement. On peut parler de consommation d'énergie, on peut parler s'assurer que la communication se passe bien, y compris avec des contraintes qu'on ne connaît pas réellement ou qu'on peut pas reproduire physiquement sur Terre.
D'accord. Et vous arrivez à avoir une précision, on va dire, un taux de réalisme qui est hyper élevé. Est-ce que vous arrivez à chiffrer ça?
Très très proche de la réalité, parce que en réalité, la modélisation numérique, elle est partout autour de vous. Je vois que devant vous, vous avez un ordinateur portable, vous avez probablement un smartphone dans la poche. Mais quand vous prenez l'avion, quand vous prenez le train, ou quand vous allumez l'électricité chez vous, la centrale nucléaire qui produit l'énergie, elle a des jumeaux numériques virtuels qui ont été utilisés avec nos outils.
D'accord.
Pour assurer de la fiabilité et de la sécurité de ces équipements-là. Parce que là encore, il y a des prototypes qui sont très complexes à faire. On peut difficilement dire, tiens, on va prendre un avion, on va le cracher.
Ouais, et on va voir ce qui se passe.
Et on va voir ce qui se passe. Mmh. Tiens, notre centrale nucléaire, on va la pousser hors des limites. Et ça a mal se passer. Donc finalement, c'est la simulation numérique a démarré dans les années 80. Donc c'est pas quelque chose de récent. Ouais. 70-80. Et elle a pris une ampleur avec la puissance de calcul qui suit, parce que plus la puissance de calcul augmente, plus on est capable de reproduire l'environnement, plus on est capable de traiter des phénomènes complexes.
Donc, grâce à vous, ça évite des accidents, ça évite des pannes, des dysfonctionnements, on est d'accord.
Exactement. Ou on vient même optimiser des équipements qu'on a aujourd'hui.
Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a 50 ans, lors des premières missions lunaires, il n'y avait pas tout ça.
Non.
C'est dingue.
C'est dingue, mais aujourd'hui, les missions lunaires de l'époque étaient une prouesse. Mais aujourd'hui, on parle quand même d'installer une station lunaire avec des gens à résidence.
Ouais. Ça rentrera un peu dans la banalité dans quelques années, finalement.
Tout à fait, mais l'utilisation de la modélisation numérique est déjà dans la vie de tous les jours. J'essaye de vous passer comme message sans s'en rendre compte, tous nos concitoyens...
Sans le savoir. On parle beaucoup de jumeaux numériques dans le domaine de la santé.
Oui.
Est-ce que c'est un sujet que vous traitez aussi?
Alors, c'est un sujet qu'on traite. Alors, dans le domaine de la santé, on peut parler des équipements. Puis il y aura des scanners, des machines opératoires, etc. Donc là, on est sur de l'équipement, donc on est plutôt sur notre cœur de métier.
C'est-à-dire que là, vous allez vérifier qu'une machine va bien fonctionner dans des conditions extrêmes, etc.
Exactement.
Ouais. Je parlais plutôt des jumeaux numériques, on va dire, pour reproduire un organe ou des cellules, des choses comme ça.
On travaille dessus, on a beaucoup de partenariats avec des universités, avec des centres hospitaliers. Donc là, c'est mondial, c'est à travers le monde, ça peut être local. L'idée, la clé de tout ça, c'est demain pouvoir faire du patient spécifique. Si demain on est capable de dire, je prends un patient lambda, je suis capable de reproduire ses conditions biologiques et de pouvoir anticiper ce qui va se passer si j'applique tel ou tel traitement ou telle chirurgie.
C'est-à-dire que là, le traitement sera virtuel, c'est-à-dire qu'on saura numériquement s'il y aura un résultat ou pas.
Mais on l'a déjà fait en fait. Il faut savoir que quand on déploie un stent, on est capable aujourd'hui de prendre votre système sanguin et d'aller chercher le bon stent qui va venir corriger, parce qu'en fonction de votre topologie artérielle...
D'accord.
Par exemple, vous et moi, on va peut-être pas avoir besoin d'un même dispositif. Et plutôt que d'essayer un premier dispositif, c'est pas le bon, on en remet un deuxième.
Oui, c'est embêtant.
On vient scanner et on se dit, on va essayer d'avoir le bon dispositif du premier coup.
Et ça, c'est rentré dans le quotidien des cardiologues ou des chirurgiens cardiologues?
Ça y vient de plus en plus. Ça y vient de plus en plus parce que pour eux, c'est aussi un gain de temps.
De temps, oui.
C'est un gain financier aussi pour notre système de santé, puisqu'on s'assure un seul dispositif. Et puis, c'est aussi un gain de pouvoir anticiper des imprévus. Parce que si on a modélisé le patient avant de venir intervenir, on s'évite quelque part des mauvaises surprises.
C'est clair. Qu'est-ce qui reste à numériser, à créer en jumeaux numériques? Vous avez, il y a un objectif, il y a quelque chose qui est très compliqué à reproduire numériquement, que vous aimeriez réussir à faire?
Aujourd'hui, vous savez, toutes les sociétés, elles repoussent un peu leur R&D au-delà des limites, parce que la compétition est féroce. Donc finalement, la complexité vient du couplage des phénomènes physiques. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de le faire, mais plus la puissance de calcul augmente, plus on est capable de traiter des phénomènes complexes. Le point qui peut être un peu, très novateur, ça va être quel rôle va jouer l'intelligence artificielle dans ces processus R&D et dans ces modélisations numériques. Et là, on essaye d'être un petit peu précurseur. Le premier point, c'est pour avoir des modèles d'intelligence artificielle qui optimisent nos algorithmes, donc qui rendent quelque part l'interface utilisateur et l'outil plus performant. Mmh. Mais demain aussi, comment on aimerait être les premiers à pouvoir mettre sur le marché ce qu'on appelle l'agentic AI, donc des agents virtuels qui vont pouvoir venir faire tourner des modèles numériques pour permettre à l'ingénieur d'être plutôt en prise de décision, on va dire, qu'être en opération.
Et là, c'est sur la bonne voie aussi?
Sur la bonne voie. Ça fait partie de notre plan stratégique. On avance très vite. Il y a des choses qui vont arriver dans les prochains mois, les prochaines années, très rapidement.
Passionnant tout ça. Merci beaucoup, Florent. Rappelons que vous êtes le vice-président Europe du Sud chez Synopsys. Florent Thébault, donc. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Tech & Co, 20h46. On va poursuivre avec un petit reportage tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
Et c'est une première. La Haute Autorité de Santé vient d'autoriser le remboursement d'une thérapie numérique. Tiens, c'est un sujet qu'on évoquait à l'instant. Elle a été mise au point par la start-up Ludocare et permet d'aider les enfants asthmatiques à se soigner. Je vous propose d'écouter, de regarder le reportage d'Astrée Olivier.
Joe, c'est un petit robot blanc avec de gros yeux tout ronds.
Bonjour!
C'est un compagnon de santé pour les enfants qui souffrent d'asthme sévère. Il est doté d'un écran sur lequel défilent des instructions pour prendre correctement les traitements.
Tu dois prendre un comprimé. Bravo !
Le robot est piloté à distance par les parents qui programment Joe via une application mobile développée par Jean-Philippe Novant.
Là, je viens d'ouvrir l'application Thérapie Digitale Joe. J'ai la possibilité de renseigner des suivis, signaler une crise et ou reporter un symptôme. Quand t'as le créneau qui arrive et que tu dois jouer ton traitement à 8 heures, bah t'as une alarme.
Place le masque sur ton visage. Il ne faut pas que l'air puisse échapper. Appuie sur le spray. Respire calmement dans le masque.
Les ordonnances des enfants sont scannées pour programmer le robot. Alors, les données de santé sont stockées sur des serveurs européens ultra sécurisés. Un enjeu de taille avant de lancer la production.
Ça fait 2 ans qu'on retravaille sur le fait d'avoir une appli internationale sur des hauts standards de sécurité. Je pense que là, on a atteint un niveau de sécurité qui est quand même très bon.
Développement numérique terminé, Joe est ensuite assemblé à Grenoble dans l'atelier 6, un centre d'aide à la réinsertion professionnelle.
J'ai tout ce qu'il faut, j'ai mes composants, j'ai les outils pour lancer la prod.
Ernesto Mvamba est formateur depuis 3 ans. C'est lui qui a appris aux techniciens en reconversion toutes les étapes de fabrication du robot.
J'aime transmettre tout ce que moi j'ai fait et voir quelqu'un qui arrive à faire ce que moi j'ai fait. Ça me fait plaisir.
Depuis 7 ans, 1500 robots Joe ont été produits pour Ludocare dans l'atelier dirigé par Émilie Pellissier.
Ça coûte pas plus cher. En termes de coût horaire, ça coûte même sûrement moins cher. Et puis surtout, ça permet à des entreprises qui, par exemple, vont avoir besoin de concentrer leurs propres salariés sur des activités, par exemple, d'ingénierie, de pouvoir traiter les opérations de sous-traitance industrielle donc dans un atelier qui leur prend pas de place.
Cette maîtrise des coûts est capitale pour Ludocare car la start-up ne réalise pas encore de chiffre d'affaires. C'est grâce à des levées de fonds successives, dont la dernière à plus de 4 millions d'euros, que la start-up a financé une étude clinique pour la thérapie numérique. Selon sa fondatrice Alexandra de la Fontaine, elle diminue de 30% les crises d'asthme qui nécessitent une hospitalisation.
Alors, grâce à ces résultats d'études cliniques, nous avons pu déposer un dossier auprès de la Haute Autorité de Santé, auprès de laquelle nous avons demandé une prise en charge pour un remboursement, ce qui nous a été accordé. Et maintenant, la prochaine étape, ça va être la discussion avec les instances pour pouvoir déterminer le prix et les modalités de prise en charge.
La directrice tape sur une fin des négociations d'ici à la fin de l'année et un début des commandes du dispositif dès l'année prochaine.
Voilà, reportage signé Astrée Olivier. On va parler smartphone maintenant. Et ça y est, les passerelles entre les iPhones et les téléphones Android commencent à arriver. On vous explique tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Et on en parle avec Pierre-Alain Ouard. Bonsoir Pierre-Alain.
Bonsoir François.
Vous êtes directeur marketing chez Honor France. Honor, constructeur de fabricant de smartphones, mais aussi de tout un écosystème lié au smartphone. Hein. Vous faites notamment des écouteurs, mais j'imagine d'autres produits liés à l'écosystème smartphone.
D'excellents PC, des tablettes, aussi, des montres. C'est vrai qu'on a un écosystème large et de plus en plus large.
Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que vous vous êtes dit, comment peut-on faire pour casser un peu ces silos entre les systèmes d'exploitation qui existent aujourd'hui. C'est vrai qu'un iPhone est dans son monde il est compliqué de pouvoir partager par exemple un fichier d'un téléphone d'un iPhone à un téléphone Android et notamment un téléphone Honor parce que AirDrop n'existe pas par exemple n'existait pas sur les téléphones Android. Tout ça est en train de changer. Ça fait plusieurs mois voire plusieurs années que vous travaillez sur des passerelles technologiques entre on va dire l'écosystème Android Honor et les iPhones, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est vrai qu'historiquement, il y a deux systèmes d'exploitation principaux, en tout cas en Occident, qui sont Android et Apple, iOS.
C'est vrai qu'en Chine, parce que vous êtes un fabricant chinois, mais en Chine, il y a un autre système d'exploitation qui est en train de prendre le dessus.
Tout à fait, HarmonyOS. Oui. Mais c'est vrai qu'on ne le rencontre pas trop ici en Europe. Et l'interopérabilité entre Android et iOS, elle est complexe. C'est vrai que c'est difficile de recevoir des fichiers entre Android et iOS, d'exporter des notifications, de faire beaucoup de choses entre les deux produits.
Ne serait-ce qu'une montre connectée, finalement. Hein. Si on n'a pas une Apple Watch avec son iPhone, si on a une montre d'une autre marque, on n'a pas la même intégration poussée, en fait.
Exactement. Alors, autant Android, c'est open, c'est ouvert. On peut avoir un smartphone Honor et une montre de la marque Google, par exemple. Ça fonctionnera bien. Mais sur iOS, on considère souvent que c'est un peu une prison dorée. On est un peu enfermé dans cet écosystème qui empêche justement de pouvoir utiliser une Apple Watch avec un smartphone de la marque Honor, par exemple. Et c'est là où on vient casser un petit peu cette barrière, cette prison, et on propose aux utilisateurs iOS un peu plus d'interaction avec les produits Android. Ça commence par un AirDrop, donc on peut envoyer et recevoir des fichiers très simplement entre un smartphone Apple et un smartphone Honor. Mais en fait, contrairement à d'autres, on va beaucoup plus loin, notamment sur les notifications. Et ça peut paraître bizarre.
Alors attendez, je vous coupe, parce que l'AirDrop, ça y est compatible avec vos téléphones.
Tout à fait. On peut envoyer des fichiers depuis un iOS, depuis un iPhone,
d'accord,
sur un smartphone Honor, très simplement et très rapidement. Et même des gros fichiers de plusieurs dizaines de gigas.
Ok. Ouais. Donc là, ça y est, c'est la même technologie qui arrive sur les téléphones Android.
Tout à fait.
Ok.
Tout à fait.
Vous aviez un deuxième exemple.
Oui, c'est surtout sur les notifications où c'est intéressant, notamment au niveau de l'Apple Watch. Alors, il faut savoir que Honor, on vend des smartphones qui vont de 149 euros jusqu'à 2000 euros.
Oui, si on prend le pliant,
exactement.
C'est un téléphone qui coûte plutôt cher.
Ce pliant-là. Et on a remarqué que presque 20% des acheteurs du Honor Magic V5 viennent d'iOS. C'est énorme. Dans l'industrie, c'est colossal. Et on pourrait se dire que cette fonctionnalité qu'on est en train de créer pour capter des utilisateurs iOS, justement, c'est une stratégie commerciale. Ce n'est pas le cas. En fait, on a remarqué que ces 20% d'utilisateurs iOS qui sont venus acheter un Honor Magic V5...
Qui ont switché.
Ils ont switché, exactement. Et bien, en fait, ils ont encore des produits Apple. Et 70% d'entre eux possèdent encore une Apple Watch. Et ça, pour eux, c'est un irritant, c'est une contrainte. Ils ont une montre connectée qui fonctionne bien, ils en sont contents.
Oui. Qui fonctionne bien avec un iPhone.
Qui fonctionne bien avec un iPhone, mais qui ne fonctionne pas avec un smartphone Android. Ben nous, on offre la possibilité de rendre cet objet utile. C'est pas perdu, vous avez une Apple Watch, et ben vous pouvez continuer de l'utiliser avec un smartphone Honor. Vous recevrez vos notifications comme vous le faisiez avant avec votre smartphone sous Apple.
Mais est-ce que j'aurais pas la même intégration poussée malgré tout?
On travaille
toutes les fonctions santé, enfin je veux dire, l'Apple Watch est quand même intrinsèquement liée à l'iPhone. Jusqu'où vous allez en fait?
Pour l'instant, on se limite aux notifications.
D'accord.
Notifications d'appel, on peut lire ces messages, que ce qui viennent de WhatsApp ou même de la messagerie classique.
D'accord.
Et on travaille pour pousser encore un peu plus l'intégration et pourquoi pas aller sur des domaines comme l'application santé et autres.
D'accord. Il faut savoir qu'il y a quelques mois, il était impossible pour une Apple Watch de discuter avec un téléphone Android.
Tout à fait. C'est en train de s'ouvrir peu à peu. Et on constate aussi que d'autres, comme par exemple Google, proposent de plus en plus d'intégration. Mais aujourd'hui, le constructeur qui propose le plus de fonctionnalités entre iOS et Android, c'est Honor, c'est nous, parce qu'on travaille la chose depuis maintenant plusieurs années.
Mais alors, est-ce que vous faites ça en discussion avec Apple, ou est-ce que hacker un peu en quelque sorte les technologies d'Apple pour les rendre compatibles avec vos téléphones?
Un peu des deux. Donc oui, on a des discussions avec les équipes d'Apple parce que typiquement, si on veut pouvoir avoir une parfaite intégration entre les smartphones Honor et les MacBooks, parce qu'on peut aussi faire des choses avec les MacBooks, il faut installer une
application. AirDrop, je peux faire de l'AirDrop entre votre téléphone et un MacBook.
Tout à fait, on peut aller plus loin. Je peux copier un texte sur mon Honor et le coller sur mon MacBook.
Okay.
Je peux utiliser mon Honor comme un second écran de mon MacBook. Il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça qui sont super utiles et qui manquent aujourd'hui aux utilisateurs potentiels.
Et donc Apple vous dit « Ok, go, on y va » ou est-ce que, malgré tout, on voit qu'en Europe, il y a le fameux DMA qui est arrivé et qui oblige Apple à s'ouvrir en fait aux autres écosystèmes. Est-ce que vous bénéficiez aussi de cette réglementation qui est plus favorable?
On en bénéficie, en effet. Même si on travaille la technologie depuis plusieurs années, le fait que Apple soit de plus en plus contraint à ouvrir son écosystème,
ça vous accélère.
Ça accélère grandement les choses. Tout à fait.
D'accord. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres interactions Y a un truc qui est assez impressionnant chez Apple, c'est par exemple, j'ai des AirPods, j'ouvre mes AirPods sans rien faire, ils se connectent en fait au téléphone, on n'a pas à aller chercher le Bluetooth, le produit, etc. Tout ça, c'est des fonctionnalités aussi qui peuvent arriver.
François, je vous invite à me réinviter d'ici quelques mois, parce qu'on aura de belles nouvelles à vous annoncer, notamment au niveau de l'intégration des AirPods, tout à fait.
D'accord.
On travaille
donc,
dessus.
Donc ça commence à bouger.
Oui.
Ça, c'est plutôt pas mal. Mais est-ce qu'Apple peut couper justement toutes ces fonctionnalités que vous mettez en place ?
J'imagine qu'ils ont le pouvoir de le faire, techniquement.
Mais ils ne le font pas pour l'instant.
Je pense que ce n'est pas forcément dans leur intérêt, et notamment au niveau légal, par rapport à l'Europe, notamment, de le faire.
Pierre Anaward, dernière question. Alors, rappelons que vous êtes directeur marketing chez Honor France. Aujourd'hui, on en parle tous les soirs dans Tech & Co, c'est la guerre du prix de la mémoire, des processeurs, etc. etc. Est-ce que vous êtes en première ligne de tout ça ? Est-ce qu'aujourd'hui, le marché du smartphone est devenu compliqué à cause de l'explosion des prix en fait, de ces composants ?
Merci de me poser cette question. Et c'est vrai que le marché du smartphone est en effet en première ligne. Notamment à cause de l'augmentation du prix de la RAM. Parfois plusieurs centaines de pourcents d'augmentation sur ce composant qui est clé dans les smartphones.
On a plusieurs gigas de RAM en fait aujourd'hui.
Tout à fait.
Ça peut aller à 10, 12,
exactement. Exactement. Et on a de plus en plus besoin de RAM, notamment pour les fonctionnalités IA. Et c'est vrai que les derniers Honor sont bourrés d'innovation et bourrés d'intelligence artificielle. Nous, on est un peu moins touchés que d'autres pour plusieurs raisons, notamment des raisons stratégiques. On s'est adapté très rapidement, on a su être flexible. On tente et même on y arrive à ne pas monter les prix. Et ça, c'est quelque chose de très important pour nous. Mais ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que malgré une baisse globale du marché, aujourd'hui, on a tout de même une croissance. Si je prends un exemple, en 2025, sur le premier trimestre, qui n'est pas le meilleur pour Honor, parce que ce n'est pas le moment où on sort les meilleurs produits, etc. Mais sur le premier trimestre, on était à 5% de part de marché, sur le B2C qui nous intéresse. D'accord. En France. En 2026, c'est les chiffres les plus récents, on est à 7%. Ce qui veut dire qu'on a une augmentation de 40% de nos parts de marché. On a une croissance de 40%. Et aujourd'hui, il n'y a que deux acteurs qui connaissent une croissance en France. Honor et Apple. Et on connaît la plus forte croissance sur le marché français.
Amusant. C'est amusant parce qu'on parlait justement des passerelles que vous êtes en train de mettre en place entre Apple et Honor. Et ben finalement, vous avez un autre point commun sur ces ventes qui s'accélèrent. Merci beaucoup.
Merci
Pierre-Alain Houard, directeur marketing chez Honor France. Pour terminer ce Tech & Co en ce mercredi, on sera là demain. Je vous rappelle, invité exceptionnel, je recevrai en toute fin d'émission un porte-parole de Mistral demain pour revenir sur toute la stratégie de notre pépite IA française. On aura plein de questions à poser à notre invité. D'ici là, très belle soirée et à demain, donc 19h30.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.